Quel beau cantique. La présence de Dieu, voilà ce dont nous avons besoin, voilà ce qui fait tout dans une église. La présence de Dieu qui peut se manifester. Juste un rappel de ce que nous avons vu dimanche, par exemple, avant les cantiques, nous avons chanté un beau chœur qui dit « Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, Dieu a une armée qui se lève pour le servir ». Vous vous rappelez de ce cantique, si vous étiez là, dimanche matin, c'est un beau cantique. Vous êtes d'accord? Mais c'est un cantique qui nous engage. Il y a des cantiques qui nous permettent d'exprimer notre reconnaissance. Il y a des cantiques qui nous engagent. Mais comment peut-on chanter des cantiques comme ce que l'on vient de chanter, comme ce cantique que nous avons chanté dimanche matin, si l'Église ne prie pas? Le thème de ma prédication dimanche, c'était « vous avez à lutter ». C'est un verset d'Éphésiens chapitre 6. « Vous avez à lutter ». C'est important, nous avons vu que beaucoup de croyants ont tourné le dos au combat. Beaucoup de chrétiens, dans l'assemblée également, se sont endormis, se sont assoupis et ont préféré certaines choses de la terre aux choses spirituelles. C'est un grave danger car l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être lorsque les chrétiens s'endorment, vous le comprenez. Beaucoup de chrétiens se battent, je le sais, se débattent avec la volonté de Dieu. Parfois même, beaucoup de chrétiens disent « Mais Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire », alors que c'est tout indiqué ce qu'il faut faire. Il y a des choses précises par rapport à des directions personnelles, mais il y a des choses qui sont continuellement de bon sens, comme la prière. Nous allons donc lire dans Ésaïe 57 une prophétie qui a été écrite il y a 2700 ans, si je ne me trompe. Ésaïe 56, nous allons lire le verset 7. C'est une prophétie, ça a été voulu de Dieu, Dieu veut que ce soit comme ça. Vous connaissez certainement très bien ce verset, j'y ai fait allusion dimanche matin. Ésaïe 56, verset 7. Ésaïe 56, verset 7e. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Est-ce que vous avez de la joie dans la prière? Parce qu'il y a de la joie dans la prière. Dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Si vous n'avez pas de joie dans la prière, c'est qu'il y a un truc à réviser. Je les réjouirai dans ma maison de prière, leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Dans d'autres versions, c'est pour toutes les nations. Donc, c'est une prophétie. Dieu a décrété que sa maison serait une maison de prière. Et il n'a pas donné d'autre nom à sa maison. Est-ce que Dieu savait comment il devait appeler sa maison? Parce que nous, aujourd'hui, on peut appeler la maison de Dieu de plusieurs façons. Mais la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Si devant toutes les églises, il y avait écrit « maison de prière », c'est quelque chose qui tiendrait vraiment debout. Même s'il n'y avait pas écrit « église », mais s'il y avait écrit « maison de prière », ça signifie que c'est la volonté du Seigneur. Dieu sait ce qu'il a fait. Dieu sait ce qu'il a dit et il veut que nous le comprenions. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Beaucoup de chrétiens, j'exagère un peu, mais se moquent de la prière, dans le sens où ils ne voient pas l'intérêt de prier. Dieu a choisi ce nom et ce seul nom pour nous interpeller, pour que véritablement nous puissions dire « mais où j'en suis de ma vie de prière ?» Parce que la maison de prière, ce n'est pas que l'église également, notre maison, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc notre corps qui habite le Saint-Esprit doit vivre dans un esprit de reconnaissance, de louange et d'adoration. Mais si Dieu, parce que Dieu dans sa sagesse, n'ayant donné que ce nom à l'église, a voulu certainement nous parler, nous interpeller. Quand vous entendez des chrétiens qui se disent baptisés du Saint-Esprit, qui disent « il n'y a pas besoin de prier », vous comprenez bien qu'ils sont complètement en désaccord avec la prophétie biblique. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, moi je crois qu'il a besoin de prier et qu'il aime prier. Donc, nous devrions être interpellés. Ce soir, je crois que Dieu nous a donné un rendez-vous pour nous interpeller, à chacun, moi le premier, afin que nous soyons sérieux avec ce à quoi Dieu nous appelle. Car comme je l'ai dit dimanche, il y a des choses, peut-être que vous ne savez pas encore ce à quoi Dieu vous appelle, peut-être que vous savez jouer de la musique, mais vous dites, est-ce que c'est ma place d'être un musicien dans l'église? Écoutez, ça c'est secondaire. Mais être un intercesseur, laissez-moi vous dire que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et que si vous ne voulez pas vous appliquer à être un intercesseur, vous allez être tout le temps en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est pas qu'à Jérusalem. Cette semaine, il y a un monsieur qui m'a écrit un livre, parce qu'il avait été guéri quand j'étais missionnaire. Il m'a envoyé un livre. Et il faut que je le lise. Alors il parle dans tous les sens pour expliquer que Dieu veut sauver que les Juifs. Moi, quand je lis la Bible, je crois que Jésus veut sauver tous les peuples et que partout, toutes les églises doivent être des maisons de prière pour tous les peuples. Ne vous dites pas, est-ce que moi je suis à l'écart? Moi je suis un Congolais? Moi je suis un Toulousain? Tous les peuples. Pour tous les peuples. Et aujourd'hui, nous devons savoir ce qu'est une église. Qu'est-ce que c'est l'Église pour vous? Qu'est-ce que c'est l'Église? Qu'est-ce que c'est l'Église? Est-ce que vous pouvez dire ce soir pour moi, l'Église, c'est 9 rue Saint-Guillain, le local où des chrétiens se rassemblent? C'est quoi pour vous l'Église? Est-ce que c'est une maison d'activité sociale? Je vous ai dit dernièrement, ça m'a fait rire sur le coup, ça vous a fait sourire, que dans une église, un pasteur avait dit, voilà, on a arrêté la prière parce qu'il n'y avait personne. On a fait des réunions, on joue à la belote, on joue aux échecs, on joue aux dames, et depuis qu'on a fait ça, c'est bien, il y a du monde. Ouais, c'est triste, c'est vrai ça, c'est vrai. Dans une église, assemblée de Dieu, vous avouerez quand même que je pense qu'on est sorti de la volonté de Dieu. C'est sûr que si on veut faire des trucs, mais la maison du Seigneur, c'est une maison de prière. Parfois, on me dit, Monsieur Gou, pourquoi on ne ferait pas un débat pour savoir ce qu'on pourrait faire dans l'Église? Il n'y a pas de débat. L'Église doit être une maison de prière. Vous êtes d'accord? Et il faut que vous le compreniez. Ce soir, vous êtes venu, peut-être que vous ne veniez pas le mardi, mais Dieu veut vous parler. Parce que peut-être vous dites, mais Seigneur, parle-moi, soyons cohérents. Peut-être que des fois vous dites, mais Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté dans mon foyer, dans ma maison, dans l'église. Eh bien, moi je vous le dis ce soir, Dieu veut que vous soyez un intercesseur. L'église, ce n'est pas une maison sociale, quoi qu'il peut y avoir du social. On en fait dans l'église, on en fait, mais c'est la conséquence d'un travail spirituel. C'est la conséquence de ce que des frères et sœurs ont à cœur, car la foi sans les œuvres, elle est morte. Aujourd'hui, on se moque. On se moque. Moi, j'ai vu des chrétiens rire des gens qui priaient. Que Dieu nous accorde cette grâce qu'il n'y en ait pas ici. Des gens qui rient, de gens qui prient. Frères et sœurs, je crois que c'est une bénédiction de prier. Et je veux vous encourager. Parce que peut-être vous passez à côté de la bénédiction du Seigneur parce que vous n'êtes pas devenu cet intercesseur que Dieu veut que vous soyez. À l'époque où cette prophétie a été citée, la maison de Dieu, c'était le temple de Jérusalem. Et quand vous voyez la dédicace, vous l'avez certainement lue, on y fait souvent allusion, c'est dans 2 Chroniques au chapitre 7. On va lire la dédicace, on va lire une partie de la dédicace, parce que Salomon avait prié, il avait eu à cœur de prier pour que Dieu bénisse. Et Dieu a été d'accord avec la prière de Salomon, et Dieu va lui répondre. Alors on va lire ce qui nous intéresse, on va lire quelques textes pour que nous comprenions tous que Dieu veut que nous prions et que personne n'écoute Satan en ne priant plus. Parce que laissez-moi vous dire que si vous ne priez plus, vous avez écouté la voix de l'ennemi. C'est sûr, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. 2 Chroniques chapitre 7 verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, » c'est magnifique, c'est ce qu'il avait demandé. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. » Il y a quatre conditions, on ne va pas les voir ce soir, mais il y en a quatre et qu'il faut mettre dans l'ordre. « Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Regardez bien la suite. « Mes yeux seront ouverts désormais. Mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Et croyez-moi, vous pouvez dire « Amen ». Vous rendez compte, Dieu est d'accord avec la façon. Oui, quand vous pêcherez, quand ça n'ira pas, quand l'ennemi aura volé votre blé, etc. Priez-moi, invoquez-moi, cherchez-moi, cherchez à savoir ce qui ne va pas. Parce qu'il n'est pas dit prier. Il est dit s'humilier. S'humilier, c'est dire, c'est vrai, je ne prie pas, parce que, soyons sérieux. On a parlé dimanche matin d'Adam et Ève qui ont préféré la parole de Satan à la parole de Dieu. C'était facile à comprendre, mais c'est exactement pareil. Si on ne fait pas ce que Dieu nous demande, ça n'a pas été délibéré, on n'a pas dit avec notre vocabulaire, je choisis d'obéir à Satan plutôt que d'obéir à Dieu, mais en vérité, c'est ce qui s'est véritablement passé. Dieu veut bénir. Dieu n'a pas changé d'avis, Dieu veut bénir. Dieu veut bénir l'Église, même si le péché abonde, on l'a vu il y a quelques semaines, la grâce de Dieu peut surabonder. Est-ce que vous le croyez vraiment ça? Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce qu'on va être confronté de plus en plus à voir le péché multiplié. Vous le croyez que le péché va multiplier? Ça ne va pas faire en s'arrangeant. Mais il faut surtout que vous voyez que la grâce de Dieu va surabonder. Avant de venir, je priais. Je priais avant de venir, j'avais préparé ma prédication. Et je priais et tout d'un coup, j'ai vu ce texte dans la Bible, quand Dieu a réveillé Zacharie. Il l'a réveillé. L'ange me réveilla comme on réveille un homme de son sommeil. Et il a vu ce chandelier. Dieu veut nous montrer certaines choses, mais nous ne les verrons que si nous sommes réveillés, et nous ne serons réveillés que si nous choisissons vraiment de nous réveiller. Les chrétiens, ce ne sont pas des pentecôtistes qui se comparent à la doctrine avec les baptistes. Ah, nous, on a les dons spirituels, donc on est meilleur que les baptistes. Les chrétiens, ce sont des gens de la maison de Dieu. On va lire trois textes pour expliquer juste ce qu'est la maison de Dieu, car je crois que il faut le comprendre. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 3, il y a un texte qui nous dit ce qu'est la maison de Dieu. Parce qu'on entend tellement de choses. Moi, si vous saviez tout ce que j'entends, ça me fait peur des fois, peur de voir ce que les chrétiens pensent. Mais dans 1 Timothée, au chapitre 3, au verset, on va lire que ce qui nous intéresse, versets 14 et 15, c'est adressé à des pasteurs, à un pasteur, aux diacres, aux anciens, aux diaconesses, à ceux qui veulent une responsabilité. Eh bien, eux, il faut qu'ils comprennent ce qu'est la maison de Dieu. J'espère. 1 Timothée chapitre 3, verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà ce que Paul dit à Timothée, nous devons savoir comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est pour ça que moi je suis contre les débats, à ce niveau-là. On n'a pas à introduire ce qu'on a envie, qui ferait bien, tiens ça c'est bien, c'est culturel, on pourrait introduire ça, ça plairait aux gens. Un homme de Dieu, il doit savoir comment il doit se conduire dans la maison de Dieu. Il doit respecter la saine doctrine. C'est important. La maison de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Vous voulez que Dieu exauce vos prières? Vous voulez que vos enfants soient sauvés? Et il y a des choses à comprendre. Hébreux chapitre 3, verset 5. Oh, il y aurait beaucoup de textes à voir sur ce qu'est la maison de Dieu. C'est intéressant, c'est très intéressant dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 3, verset 5. Ou verset 4. Verset 4, on va aller jusqu'au verset 6. Regardez bien, il est parlé de Moïse, comment il a été béni. Hébreux chapitre 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Vous entendez? Il n'a pas fait à sa guise, pourtant c'était quelqu'un de très très instruit, très très intelligent. C'était quelqu'un qui avait appris la sagesse des Égyptiens, il aurait pu mettre son grain de sel. Il a fait comme Dieu le demandait. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Voyez bien que ce n'est pas un lieu de culte. Bien sûr que le lieu de culte devient sa maison lorsque nous y sommes assemblés. Et sa maison, c'est nous. Pourvu, je répète, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. La maison de Dieu, c'est nous, pourvu que nous respections ces choses.
voyez que ce n'est pas n'importe quoi la maison de Dieu. Ce n'est pas je fais à ma guise, c'est bien, il faut se moderniser parce que si, parce que là, non. Et un troisième texte, Éphésiens chapitre 2. Juste pour vous expliquer que la maison de Dieu, on doit la respecter. Éphésiens chapitre 2. Et aujourd'hui, je vous assure, certaines églises, c'est des centres sociaux. C'est devenu des centres sociaux. C'est dommage. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous pouvez lire la suite, c'est très intéressant, mais vous avez une idée de ce qu'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un endroit sérieux, où nous avons compris qu'étant devenu le temple du Saint-Esprit, nous devons marcher dans la sainteté afin que nos prières soient exaucées. Car croyez-moi, ce que le diable veut, c'est que nous n'aimions pas la sanctification, que nous considérions la sanctification comme une corvée. Moi, je crois que la sanctification, c'est une grâce de marcher dans la sainteté et d'avancer. La prière. Ma maison est une maison de prière. La prière, qu'en pensez-vous de la prière? Je crois qu'il n'y a jamais autant de livres qui ont été écrits sur la prière ou la foi dans la prière. Qu'est-ce que c'est la prière pour vous? Qu'est-ce que c'est pour vous la prière? Qu'écririez-vous, que diriez-vous à quelqu'un? Le dimanche, lorsque nous prions et nous louons dans l'assemblée, est-ce que c'est de la prière? Oui, c'est de la prière, oui. Quelqu'un qui adore Dieu, tout à l'heure, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont supplié. Est-ce que c'est ça que Dieu attend? C'est exactement ça. Oui. Quand quelqu'un prie dans le silence, est-ce que c'est une prière? Oui. Moi, quelqu'un m'a dit un jour, oh non, les prières silencieuses, c'est les catholiques. Oui. Mais voyez comment les gens sont bêtes. Il faut le dire comme c'est. Est-ce que c'est les catholiques qui ont inventé la prière silencieuse? Non. C'est biblique de se recueillir dans le silence. Est-ce que c'est biblique? Mais voyez, je vous dis ça pour expliquer comment on est capable de dire des bêtises. Comme si c'était une dénomination, se recueillir, rester dans le silence, c'est une bénédiction. Pensez à Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être que tout à l'heure, sous votre couette, vous resterez là, les yeux fermés, dans le silence, avant de vous endormir. C'est une prière. Quand on adore, quand on loue, quand on prie dans le silence, c'est une prière. Ce n'est pas parce qu'on ne prie pas à haute voix qu'on n'est pas spirituel. Mais c'est vrai que la prière à haute voix, quand vous lisez le livre des Actes, c'est quelque chose qui revient souvent. Pourquoi? Parce que les gens sont embrasés, parce que les gens veulent ensemble obtenir certaines bénédictions, et ils prient ensemble. Alors on pourrait multiplier tous les cas de figure. Un pécheur qui vient, ça arrive qu'un pécheur vienne pour la première fois, et que là, avec son vocabulaire peut-être un petit peu léger, il prie « Seigneur, pardonne mes péchés ». Est-ce que c'est ça la maison de prière? Eh bien oui, est-ce qu'un pécheur doit devenir? Je me souviens, moi, la première fois où une prostituée a prié. Quelqu'un m'a dit, monsieur Gou, il y a une prostituée qui a prié. Et bien, je dis, mais c'est bien. Est-ce qu'une... Non, mais, vous voyez, mais je comprends que la personne s'interrogeait. C'est bien qu'un frère se pose la question. Après tout, c'est peut-être intelligent de se poser la question. J'ai dit, mais c'est bien, frère. Moi, j'aimerais que toutes les prostituées de Toulouse viennent aller dans des églises et se mettent à prier Dieu pour demander pardon pour leur péché. Mais c'est une prière. Vous voyez ce que je veux dire? Le fils prodigue qui revient, un rétrograde qui revient, est-ce qu'il a le droit de prier? Mais oui, mais vous savez, il y a des églises, on dit, écoute, toi tu reviens, tu te tais. Tu n'as pas à prier. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit soit pas tristé? Moi, je crois qu'un fils prodigue, il a le droit de revenir dans la maison du Seigneur et de prier pour obtenir le pardon. C'est une prière. Quand on supplie Dieu pour les perdus, on prie, on supplie, c'est une prière et c'est une chose qu'on devrait faire. J'espère qu'il n'y a personne qui dit « Oh, moi, je ne pense pas aux perdus ». J'espère que vous pensez aux perdus. Vous y pensez aux perdus. Mes frères et sœurs, venez dans la maison du Seigneur. Venez prier pour les perdus. Venez prier pour tous ceux qui vont mourir peut-être avant demain matin et qui vont aller en enfer, ils ne le savent même pas. Combien de gens sont en train de boire, de faire la bringue, comme on dit, et ils ne savent pas que demain matin, ils seront morts. Vous vous rendez compte, ils seront en enfer, attendant le jugement de Dieu. Quand on demande à Dieu de guérir un malade, est-ce que c'est bien? Eh bien oui, c'est une prière, etc., etc., etc. Ma maison de Dieu sera une maison de prière. Et Dieu attend cela. Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Écoutez, moi je vous le dis avec ferveur, avec teneur, je vous le dis de manière très sérieuse. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens se sont relâchés. Et que ça fait l'œuvre du diable, ça ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il y a ce problème de local, je le sais. On en a parlé hier au conseil d'administration et on est tous d'accord pour que Dieu nous ouvre une porte et qu'on puisse avoir un lieu où on pourra se garer. On est tous d'accord. Et je crois que Dieu va nous ouvrir une porte. Mais ce n'est pas une excuse valable de dire on ne peut pas se garer. Je crois qu'il faut qu'on vienne prier. Vous n'allez peut-être pas apprécier ce que je vous dis, mais c'est quand même Jésus qui le dit. Il faut prier et ne pas se relâcher. C'est moi qui l'ai inventé ou c'est Jésus qui l'a dit ? C'est Jésus qui l'a dit. Il l'a dit pourquoi ? Parce qu'il y a un combat. Oui, il y a un repos céleste. Oui, il y a une grande joie à vivre dans la grâce de Dieu. Mais on ne peut pas ne pas combattre quand on est dans la paix avec Dieu. C'est comme ça. Dieu nous donne la paix pour qu'on puisse combattre. C'est sûr que si vous êtes dans la guerre intérieure, une guerre, ça suffit. C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi des chrétiens ne prient pas ? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas en paix. Quand on est en paix, on a besoin de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'inverse ? Non, c'est impossible. Quand on est en paix, on a besoin de servir le Seigneur. Dieu attend. On l'a lu, c'est clair, Dieu attend. À la dédicace du temple, on le voit vite, Dieu attend cela. Il attend, il veut entendre des prières. Toutes ces sortes de prières. Ça ne va pas ? Eh bien, dites-lui, Seigneur, ça ne va pas, je suis un misérable. Est-ce que c'est écrit quelque part ? Que Dieu prend pitié à la prière du misérable ? Est-ce que c'est écrit ? C'est dans le psaume 102, si je ne me trompe pas. C'est écrit, Dieu prend pitié à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Donc si ça ne va pas, ne dites pas comme déjà, oh, moi je ne prie pas parce que ça ne va pas. Vous comprenez ? Tout d'un coup, ils défendent la sainteté de Dieu d'une façon extraordinaire. Mais justement, si ça ne va pas, vous pouvez dire, Seigneur, ça ne va pas. Prends-moi tel que je suis, aide-moi à faire une expérience. Le diable, il rigole quand il voit qu'un chrétien, tout d'un coup, se met à défendre la sainteté de Dieu et qu'il ne va plus prier. Mais combien de personnes ont rétrogradé ? Parce qu'ils sont tombés dans ce piège. Oui, la chose la plus difficile, je le vois, pour moi, et dans la vie des autres, à réaliser dans une vie de piété, c'est pas le service, c'est la prière. Je ne sais pas vous, mais je suis convaincu, écoutez bien, que la chose la plus difficile à réaliser dans sa communion avec Dieu, ce n'est pas de servir Dieu dans un domaine ou dans un autre, dans une activité ou dans une autre, c'est la prière. Dès qu'il s'agit de prier, des gens sont fatigués. Est-ce que ça ne vous arrive pas des fois ? Vous avez envie de prier, paf, tout d'un coup vous êtes épuisé. C'est pas vrai ? Non mais vous n'avez pas des fois vu comment la prière c'est difficile ? Vous avez envie de prier, vous avez l'impression qu'il y a un mur devant vous. Ça vous le fait ou ça le fait qu'à moi ça ? Ça vous le fait pas des fois ? Tout d'un coup ça va bien, il faut prier, paf, une espèce de chape de plomb qui vous tombe dessus et il faut persévérer 5 minutes, 10 minutes et puis tout d'un coup paf, ça explose et on avance. Est-ce que ça le fait qu'à moi ou est-ce que ça vous l'a déjà fait ? Mais c'est pour vous dire, vous voyez combien c'est un véritable combat. Satan ne veut pas qu'on prie. Écoutez bien, Satan ne veut pas qu'on prie. Parce que ce n'est pas parce qu'on sert que l'œuvre de Dieu se fait. Est-ce que vous me comprenez ? Ce n'est pas parce qu'on sert que l'œuvre de Dieu se fait. Par contre, quand une église prie, l'œuvre de Dieu, elle se fait. Et je voudrais que vous en soyez convaincus. Mes frères et sœurs, est-ce que vous entendez ? Ce n'est pas parce qu'un pasteur prêche dans une église que l'œuvre de Dieu se fait. Dieu honorera sa parole, Dieu dans sa bonté fait reposer une mesure de grâce sur notre service. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais l'œuvre de Dieu, elle se fait quand la maison de Dieu est une maison de prière. Et quand vous regardez Dieu, le diable, je ne parle pas souvent, mais là il faut en parler. Le diable, il fait tout pour faire en sorte de s'asseoir même dans la maison de Dieu. C'est une prophétie. On la lit ? Les gens, ils ne font pas attention. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous savez, les gens ne lisent pas la Bible. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas de force pour prier. Si vous ne priez pas, si vous ne lisez pas la Bible, c'est peut-être pour ça que vous ne priez pas suffisamment. Regardez, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, quand il est parlé de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, il y a une prophétie. Il y a des prophéties terribles dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des prophéties terribles ? Il y a des prophéties terribles. Regardez avec moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, c'est des impératifs, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Regardez bien le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, moi j'ai lu plein de trucs là-dessus. Bon, chacun dit la sienne, mais quand même c'est une prophétie où on voit que le diable veut s'asseoir dans le temple de Dieu. Alors c'est spirituel, c'est ce que vous voudrez. Une chose est certaine, c'est ce qu'il avait dit. Regardez avec moi dans Ésaïe 14. Parce que c'est important de voir que si Dieu veut que les chrétiens soient déterminés, c'est parce qu'il y en a un autre qui est plus déterminé que nous, croyez-moi. Est-ce que vous croyez que le diable est déterminé? Ouais. On n'y fait pas attention à ça. Il sait qu'il a peu de temps, et laissez-moi vous dire que s'il peut empêcher les églises de prier... Moi, il y a un pasteur qui me disait, il y a 10 jours, il me disait, on a arrêté les réunions de prière. Voilà ce qu'il me disait, il y a 10 jours. Je ne sais pas si tu étais, Michael, quand il me l'a dit. Voilà, c'était ici à Toulouse. Un pasteur m'a dit, on a arrêté les réunions de prière. Il n'y a personne qui vient, alors on a arrêté les réunions de prière. Mais vous savez qui c'est qui a gagné. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Vous lirez la suite, on voit bien que le diable n'a qu'une idée en tête de s'asseoir dans le temple de Dieu. Et moi je vous dis, lorsque les églises n'ont plus de réunions de prière, lorsque les églises deviennent des centres d'activité à la place d'une maison de prière, le diable petit à petit, il grignote de la place et l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous le prenez. Moi, je suis votre pasteur, je prêche avec ferveur, c'est un fait. Mais une chose est certaine, vous devez réagir à cette prédication devant Dieu. Devant Dieu, c'est très sérieux. Comme je le disais tout à l'heure, j'espère que bientôt on aura un local et surtout un parking où on pourra se garer. Mais mes frères et sœurs, que ce soit le local pratique ou pas, la maison du Seigneur doit être une maison de prière. Alors je vous avais dit qu'on prendrait 2 textes ou 3 dans l'Ancien Testament pour voir comment le diable a manigancé pour faire en sorte que cette maison où Dieu avait dit « il y aura toujours mes yeux et toujours mon cœur », vous savez comment le temple de Jérusalem a terminé. Qu'est-ce qu'on a fait du temple de Jérusalem? On l'a détruit. Ça, je n'arrive pas à parler des sentiments de Dieu, parce que pour moi c'est quelque chose qui nous échappe. Mais je pense que le jour où on a détruit le temple de Jérusalem, je pense que le cœur de Dieu devait être attristé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et regardez ce que l'on voit dans l'Ancien Testament. Alors peut-être vous n'y avez pas fait attention, mais avec ce que vous venez d'entendre, vous allez comprendre ce que le diable fait aujourd'hui dans les églises. 2 Rois chapitre 23. Moi, c'est des choses qui m'ont fait frémir. Et j'ai honte de ne pas avoir suffisamment insisté, vous voyez, par rapport aux prières, à la réunion de prière. 2 Rois chapitre 23. Moi, j'ai honte parce que c'est pas parce que je prêche que ça va bien. Il y a des choses qui vont pas. Il faut qu'on se ressaisisse. Et moi, le premier, regardez, 2 Rois chapitre 23, verset 4. On va lire jusqu'au verset 7. Notez ces textes, relisez-les et faites la projection spirituelle dans le cadre du Nouveau Testament. 2 Rois chapitre 23, verset 4. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron. Vous avez vu, ils avaient réussi à introduire dans le temple ces choses. Il chassa vers ses saints les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Quand je vois qu'il y a des chrétiens qui consultent l'horoscope... Moi, je peux vous dire que depuis ma conversion, je n'ai jamais lu un horoscope. Jamais. Je me suis fait un point d'honneur. Oh, c'est pour rire. Mais je ne crois pas qu'on rit avec les choses spirituelles. Je pense qu'il faut rire. Mais on ne rit pas avec ces choses. Parce que qu'on le veuille ou non, les gens sont superstitieux, ils le deviennent, c'est de la preuve, et ils introduisent ces choses dans leur cœur. C'est pas fini. Il sortit de la maison de l'Éternel, l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron, et il brûla au torrent de Cédron, il la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées, tenez-vous bien, sans eux. Vous avez, à la fin, il n'y a pas de eux. C'est des prostituées, hommes, qui étaient dans la maison de l'Éternel. Vous n'y faites pas attention, mais c'est écrit. Où les femmes tissaient des tentes pour Astarté, encore une divinité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui se passe lorsque l'Église ne prie pas. Parce qu'en fin de compte, ces choses se sont passées parce qu'il n'y avait pas de prière. Parce que la maison de Dieu n'était pas une maison de prière. Et le diable avait réussi à introduire dans le temple des idoles où on l'adorait à lui. C'est un truc de fou. Est-ce que vous comprenez? Ça s'est passé. S'il n'y a pas de prière, il y a incontournablement un déclin dans l'Église. On se demande pourquoi il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil parce que les chrétiens n'obéissent pas à Dieu dans le domaine de la prière. Est-ce que vous comprenez? Pour nous, le réveil, c'est les pécheurs qui viennent à Dieu. Le réveil, ce n'est pas des pécheurs qui viennent à Dieu. Le réveil, c'est une Église qui obéit à Dieu. Et en obéissant à Dieu, Dieu bénit les pécheurs. Ça, c'est tous les revivalistes qui vous l'expliquent de cette façon-là. Je résume tout l'enseignement des revivalistes au travers d'une phrase. Lorsqu'il n'y a pas de prière, il se passe des choses terribles dans la maison du Seigneur. Vous avez jamais entendu des faits divers dans les églises? Vous avez jamais entendu moi, j'ai entendu de ces choses encore hier. Une sœur d'une église qui me disait que dans une assemblée, un homme avait touché des jeunes enfants. Mais comment ça se fait, ça? Mais comment c'est possible? Un chrétien. Parce qu'on n'a pas prié, l'ennemi s'est infiltré. C'est ça que ça veut dire. Et nous ne devons pas venir à l'église, dire voilà, on a de bonnes prédications. Souvent on me dit, monsieur Gau, vos prédications, d'accord, c'est vrai que je m'y applique. Parce que je sais que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. À moi, je sais que Dieu m'appelle à m'appliquer au ministère de la parole. Mais si vous ne priez pas, si nous ne prions pas, laissez-moi vous dire que l'ennemi s'infiltrera et que nous perdrons des enfants. Quand je vois des pasteurs qui me disent « tous nos ados sont partis de l'église ». Mais moi, ça me brise le cœur. Ça vous fait rien, vous? Ça vous fait rien? Alors bien sûr, il y a 30 ados dans l'église, il y a une cinquantaine ou 70 enfants. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tous nos enfants soient sauvés. Que tous nos ados soient bouleversés par la grâce de Dieu. Priez avec vos enfants, priez avec vos ados, priez entre vous si vous avez votre conjoint chrétien. Mais appréciez de pouvoir prier ensemble. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la maison du Seigneur? Ça vous fait pas mal au cœur de lire ces choses? Dans la maison de Dieu, on voit des gens qui sont en train de louer le diable. Vous le voyez comme moi. On lit un autre texte, Ézéchiel chapitre 8. Et des textes comme ça, laissez-moi vous dire qu'il y en a dans la parole de Dieu. Hélas. Ézéchiel chapitre 8. On va lire du verset 5 au verset 16. Lisons-le, ça fait mal au cœur de lire ces choses, mais je crois qu'il faut les lire. Pour que vous compreniez, pour que nous comprenions ce qui se passe lorsqu'une église ne prie pas. Et croyez-moi, dans l'église, là, on a beaucoup, c'est vrai qu'on aide, on envoie des milliers d'euros pour ci, des milliers d'euros pour ça. Béni soit le Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux de voir tout ce que Monsieur Olé est heureux de voir tout ce qu'on a fait pour lui? Est-ce que c'est bien? Mais mes frères et sœurs, avant ce travail que l'on doit continuer à faire, puisqu'on est engagé et qu'on va se réjouir de faire, mes frères et sœurs, je vous le dis de la part de Dieu. Si c'était moi qui vous dis quelque chose qui n'est pas biblique, voyez, si je vous disais quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible, oh, j'en suis convaincu, faites ceci, faites cela, vous pourriez écouter, monsieur Gou, vos convictions, on n'en a rien à faire. Et vous auriez raison. Mais là, c'est la volonté de Dieu. Regardez ce qui se passe quand une église ne prie pas. Éphésiens chapitre 8, Ézéchiel chapitre 8, verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie. Ça commence avec une idole de la jalousie. Dans l'église. Une idole de la jalousie. Bien sûr que nous, on ne va pas mettre une idole qui représente la jalousie. Mais est-ce que ça peut arriver, la jalousie, dans l'église? Est-ce que ça peut arriver? Mais voyez, Ce sont des petites choses. C'est une chose sur laquelle on devrait veiller. Si quelqu'un a reçu quelque chose, ben tant mieux. S'il a quelque chose de la part de Dieu, ben béni soit le Seigneur. Si moi j'ai moins, ben tant pis, j'ai autre chose. Vous voyez, ça commence comme ça. Mais regardez, s'il n'y avait que ça. Mais c'est pour vous dire que de petit à petit, ça va très loin. Verset 6. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet la maison d'Israël. Regardez bien la suite. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Vous voyez, nous on dit, Seigneur, viens, viens. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses, lorsqu'elles sont introduites dans le temple, elles éloignent Dieu. Bien sûr que Dieu est partout. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais monsieur Gros, Dieu est partout. Oui, mais on éloigne sa possibilité d'agir. Vous comprenez? Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun la censoire à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, une divinité encore. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations, plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Amen. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont introduit pour que Dieu s'éloigne. Alors que Dieu, avec son cœur de père, avait dit, moi, jamais, jamais, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et oui, et Dieu s'est éloigné. Parce qu'on a introduit des choses, on a adoré la lumière. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Quand ils adoraient le soleil, ils cherchaient une autre source de lumière, une autre source de chaleur. Vous savez, quand on cherche, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais quand je vois aujourd'hui ce qu'on est capable d'introduire comme étant une forme de lumière, alors que c'est de l'animation, alors que c'est de la mondanité, on est en train d'introduire dans le royaume de Dieu, je ne sais pas si des fois vous allez sur Internet, mais ça fait peur de voir ce qu'on est en train d'introduire dans l'Église, ça paraît être la lumière, ce n'est pas la lumière de Jésus-Christ, c'est des lumières artificielles, et voilà, on accepte ces choses. Ah mais moi je vous dis, c'est vraiment grave. Et c'est rentré parce qu'on n'a pas prié. Parce que quand on prie, on empêche ces choses de rentrer. Est-ce que vous comprenez? Et moi quand j'entends un pasteur qui me dit, il n'y a plus de réunion de prière, je sais ce qui va arriver, je le sais. S'il n'y a pas besoin d'être un prophète, il y a besoin de comprendre que quand il n'y a pas de prière, il y aura un grand déclin. Que quand des chrétiens ne prient plus, il va y avoir un grand déclin. Que quand on n'amène plus nos enfants à la réunion de prière, moi, il y a une sœur qui me disait l'autre jour qu'elle a été à la prière, et sa fille de 5 ans lui a dit, je peux venir prier avec toi? 5 ans. Et la petite de 5 ans faisait du coloriage, et à un moment donné, elle a laissé son coloriage, elle a pris ses petites mains, et pendant 5 à 10 minutes, elle a prié à haute voix, le Seigneur. Elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai dit, c'est bien. Moi, je crois, est-ce qu'on peut amener nos enfants à la prière? Est-ce qu'on peut amener nos enfants à la prière? Ah non, moi, je n'amène pas mon gosse à la prière. Il faut qu'il se couche de bonne heure. À quelle heure il se couche les autres soirs? À 10 heures. Ah bon, c'est bien. Mais c'est ça que les gens vous disent en plus. C'est bien. Mais c'est pour vous dire l'aveuglement qu'il y a. Moi, je crois que c'est une bénédiction. Mais ceux qui sont fatigués, s'ils ont trop de devoirs, mais on peut s'arranger. Une heure dans la semaine où on peut ensemble prier et supplier Dieu que dans l'Église, Dieu ne s'éloigne pas, mais que le Saint-Esprit puisse agir et qu'on voit des guérisons et qu'on voit des baptêmes du Saint-Esprit et que l'on voit véritablement l'œuvre de Dieu se faire. Ne nous étonnons pas que le temple a été détruit. Bien sûr, pour nous, c'est virtuel. Pour nous, c'est très lointain, cette affaire. Ça s'est passé en l'an 70, donc il y a quelques jours. Mais quand même, ce n'était pas la volonté de Dieu que le temple soit détruit. La volonté de Dieu, c'était que le temple soit un instrument de bénédiction. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut dans les églises? Que les églises soient des instruments de bénédiction. On ne veut pas que Dieu s'éloigne de l'église. Vous voulez que Dieu s'éloigne de l'église? Moi, je veux que le Saint-Esprit agisse dans l'église. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on est prêt à faire attention, nous qui sommes la maison de Dieu, nous qui sommes individuellement le temple du Saint-Esprit, si vous acceptez pour rire de lire le signe du zodiaque, mais que vous le voulez ou non, vous introduisez dans votre temple des choses que Dieu n'approuve pas. Quand on flirte avec, quand on dit, mais moi, un film érotique, c'est pas un film pornographique, parce que moi, j'entends de tout, hein. Donc je regarde un film érotique parce que c'est pas, on voit pas la sexualité dans ces films. Je dis, écoutez, moi je vois pas beaucoup la différence. Et quand on accepte ces choses, vous comprenez bien qu'il y en a un qui se frotte les mains parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le diable, il sait nos points faibles, croyez-moi, il les connaît. Et s'il peut nous amener à fléchir, eh bien, s'il peut nous amener à ne plus prier, à trouver tout un tas d'excuses qui sont valables, ben les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et puis on n'est pas dans une secte, on est dans une église, on est libre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas à dire à quelqu'un, quoi que les stagiaires, moi si je peux, je ne le fais même pas. Venez prier, il faut venir prier. Jésus l'a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et si vous avez vu le Nouveau Testament, vous voyez que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, vous lisez avec moi dans Matthieu 21, ça n'a pas changé. Regardez ce qui se passe. Vous savez qu'un jour, Jésus est entré dans le temple, il a fait un fouet et il a chassé tout ce qui était à l'intérieur parce qu'on faisait des affaires. C'était pour Dieu. On vendait des bœufs, on vendait des agneaux, mais c'était pour les sacrifices du temple. C'était pour le Seigneur. Vous voyez, c'était pour Dieu. Et c'est facile de justifier, de dire, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Je travaille au noir, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Je redonne ma dîme au Seigneur. C'est bien. Matthieu chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez que Dieu n'a pas changé d'avis. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Mais regardez la suite, c'est ça qui est important pour nous. C'est ma conclusion. Regardez ce qui s'est passé. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a guéris. Alléluia. Il les a guéris. Mes frères et sœurs, ce que je veux que nous comprenions ce soir, c'est que Satan travaille toujours de la même manière, faisant tout pour que dans les églises, il n'y ait pas de prière. Parce que je vous le dis, si on ne prie pas, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. On peut chanter tant qu'on voudra, les murailles s'écroulent à terre. Vous savez, on a des cantiques dans les rassemblements de jeunesse, c'est à vous faire trembler les murs. Hein. Mais on peut chanter jusqu'à la Saint-Glinglin, les murailles tombent à terre, il n'y a rien qui tombera. On pourra chanter tout ce qu'on voudra, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Satan, il fait tout pour que l'Église ne prie pas. Le Saint-Esprit, lui, il va tout faire pour que la présence de Dieu se manifeste. Est-ce que vous comprenez le combat qu'il y a? Le Satan travaille et le Saint-Esprit travaille. À qui j'obéis? Ça revient, je reviens à ce que j'ai dit dimanche matin. Mais nous devrions être capables de répondre. Très sincèrement, j'ai fait allusion à Ève, qui était dans un contexte des plus favorables, et pourtant elle a préféré la parole de Satan. Alors écoutez, nous, qui sommes dans un contexte 100 fois plus difficile, nous n'avons pas de mal à obéir à Satan. Vous entendez ce que j'ai dit? Si on ne veille pas, parce que Satan fera une chose, il nous empêchera de prier. La prière, nous l'avons lu, c'est une maison, c'est pour tous les peuples. Dieu veut que tous les gens prient. La prière, dès que vous vous convertissez, Dieu veut faire de vous un intercesseur. On devrait enseigner ça dès que quelqu'un prend le baptême, on devrait lui dire, voilà, vous devez être maintenant quelqu'un qui va prier dans l'église. On doit devenir quelqu'un qui va prier. On prie pour les âmes. Quand quelqu'un me dit, moi je vois pas pourquoi il faut prier. Eh bien voilà, c'est un aveugle. Vous comprenez ce que je veux dire? Franchement, je ne veux pas être sévère, mais quand même. Quand quelqu'un me dit, mais moi, je vois pas pourquoi prier. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma maison, elle est payée. Moi, j'ai mon boulot, j'ai la santé. Mais qu'est-ce que vous, pourquoi voulez-vous que je prie? Franchement, vous trouvez pas qu'il y a de l'aveuglement là-dedans? Au contraire, si vous avez la santé, si vous avez payé la maison, quelle grâce! Non? C'est pas une bénédiction, on devrait dire, oh Seigneur, rien que les perdus. Les perdus, les rétrogrades, les gens qui sont malades. On prie pour que Dieu inspire les pasteurs. Est-ce que vous priez pour votre pasteur? C'est sérieux. Est-ce que vous priez pour que Dieu m'inspire? Est-ce que vous priez pour les musiciens? Est-ce que vous priez pour les meneurs de chant? On doit prier pour les pasteurs. Qui a prié? Ne levez pas la main. Parce que je ne veux pas le savoir. Ça me ferait trop mal. Qui a prié pour moi aujourd'hui? Et est-ce que c'est votre devoir? Ou est-ce que c'est moi qui, tout d'un coup, ai besoin que vous priez pour moi? Est-ce que c'est normal que les chrétiens prient pour leur pasteur? Sérieusement, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez prié pour moi? Ne répondez pas. Mais c'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait voir. Oui ou non? On devrait, mais Seigneur, inspire Monsieur Gau. Inspire-le, que cet homme ait la pensée de Dieu, qu'on a besoin d'entendre, que ce soit plein de bonté, que ce soit plein de sévérité, c'est pas grave, mais inspire cet homme. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur qui fasse des belles prédications, vous avez besoin d'entendre la pensée de Dieu. Vous devez prier pour moi. Vous travaillez, vous me donnez mon salaire et combien je suis reconnaissant. Mais c'est bien, continuez. Mais mes frères et sœurs, priez pour moi, pour que j'aie la pensée de Dieu. On prie pour que les meneurs de chant également soient inspirés. Est-ce que c'est important que les meneurs de chant soient inspirés? Mais bien sûr, est-ce que par un chant, Dieu peut guérir quelqu'un? Moi, je le crois. On prie. Si vous ne priez pas, si vous ne voyez pas pourquoi il faut prier, eh bien, vous êtes comme ces gens qui se sont approchés de Jésus. Mais, vous voyez, quand on connaît le Seigneur, même si on est aveugle, même s'il faisait partir beaucoup de gens qui étaient dans la magouille, il y a des gens qui se sont approchés de lui. Quand vous connaissez le Seigneur, de toute façon, vous avez envie de vous approcher de lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand vous le connaissez, même si ça va pas, même si vous êtes aveugle, même si vous dites, ben, cette prédication, elle est pour moi. Je suis un pauvre minable, je vais chez des enfants, je prie même pas avec eux, mais vous êtes en train de les éloigner du Seigneur. Vous devez les amener de tout petit. Moi, je dis pas ça pour qu'il y ait plus de monde à la réunion, mais je vous le dis. Quand ils parlent, amenez-les et qu'ils viennent prier avec vous. Il y a des enfants, ils ont 15 ans, ils ont jamais assisté à une réunion de prière. Je ne sais pas, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, je vous pose la question. Il y a des chrétiens qui ont 5 ans de conversion, ils ne sont jamais venus à une réunion de prière. Moi, je vous dis, c'est peut-être moi qui n'enseigne pas comme il faut. Mais moi, je me pose la question. La maison de Dieu, elle doit être une maison de prière. Et on prie de tout son cœur. On ne prie pas, moi, je ne prie pas, je n'ai pas envie. Vous croyez que moi, j'ai toujours envie? Vous croyez que moi, j'ai toujours envie de prêcher? Mais je ne sais pas, moi. Vous avez toujours envie de prier, vous? Ah, moi, je prie. Moi, vous savez, je ne suis pas un légaliste. Hein. Je prie quand j'ai envie. Est-ce qu'il y a écrit dans la Bible, prie quand tu as envie? Oui. Mais voyez, c'est pour ça. Mais il y a des gens, vous savez, ils sont tellement, tellement sentimentaux qu'ils arrivent à faire redire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La Bible dit des choses, c'est clair. De prier et de ne pas se relâcher. Sinon, l'apostasie, elle rentre dans l'Église. Et l'apostasie, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'abandon de la foi. C'est l'éloignement. C'est la rébellion. Et la prière, c'est l'unique façon de changer les choses. Je rallonge un peu. Mais pourquoi il est dit prier afin de ne pas tomber en tentation? C'est écrit ou c'est pas écrit? Est-ce que Jésus a dit prier afin de ne pas tomber en tentation? Mais parce que les tentations, mais on en a tous. Aujourd'hui, vous en avez vu des tentations. Il y en a qui n'ont pas de tentations. On a tous des tentations. Et des tentations, on en aura toujours. Et Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a des chrétiens qui sont tombés, qui n'ont plus pardonné, parce qu'ils ont eu une grosse épreuve. Est-ce qu'on a tous besoin de pardonner? Eh bien, il faut prier. En priant, on reçoit la force de pardonner. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je crois que c'est ça, être honnête devant Dieu. Ah non, moi je prie plus. Moi je pardonne pas, j'en ai marre. Mais c'est pas ça l'évangile. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière, ça vous gardera de tomber. Quand Jésus dit priez et veillez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront sur la surface de la terre. Il y a plein de choses sur la surface de la terre qui arrivent. Mais vous le voyez comme moi. Si vous veillez, C'est-à-dire que si vous lisez la Bible avec votre cœur et si vous priez de tout votre cœur, vous aurez la force d'échapper à toutes ces choses. Parce que vous allez venir à l'église ? Coucou, me voilà, je viens ? Non, parce que votre vie sera une vie dans la prière. Mes frères et sœurs, ces aveugles et ces boiteux, Jésus ne les a pas rejetés, il les a guéris. Et je crois que ce soir, vous devez comprendre que nous avons un Dieu qui guérit. Il guérit tous les cœurs brisés. Peut-être que vous êtes brisé, peut-être que vous laissez le diable. Écoutez, moi, j'aime pas parler du diable dans le sens où je veux pas le mettre en avant, mais quand même, il en parle, la Bible en parle. Peut-être que vous laissez le diable vous promener, mais comme une marionnette. Je crois que c'est pas au diable à nous promener, à nous les chrétiens. Nous, c'est au Saint-Esprit à nous conduire, dans les voies que Dieu a préparées. Alors Seigneur, moi je veux que ta maison soit une maison de prière. Je ne veux pas négocier cette heure de prière. Mes frères et sœurs, moi ce n'est pas pour qu'il y ait du monde à la réunion que je dis ça. Je dis ça parce que c'est le seul moyen pour que la présence de Dieu ne s'éloigne pas. C'est le seul moyen pour que dimanche, avant le culte, est-ce qu'avant le culte, dimanche, si on prépare le culte toute la semaine, si vous préparez votre cœur devant Dieu, est-ce que des rétrogrades peuvent se convertir, revenir à Dieu avant que le culte commence ? Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Oui, à cause de la présence du Seigneur. Mais moi, je le crois, ça. Et je l'attends, que de voir des gens pleurer avant 9h30. Simplement parce que la présence de Dieu sera telle que l'Esprit de Dieu agira. Il y a des gens, ils arrivent, on est à la bourre, on est à la bourre. Hein. On est à la bourre. Des gens qui disent, on n'est pas venu dimanche à l'église parce qu'on était à la bourre, on a été dans une autre église un peu plus loin parce qu'on est arrivé à la bourre. Eh bien, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais c'est pas comme ça que l'œuvre de Dieu se fera. Vous rendez compte si moi je vous disais, je suis à la bourre, j'arrive, je n'ai pas préparé ma prédication, vous comprenez, j'ai eu un AVC, c'est... Non, c'est pas comme ça que l'œuvre de Dieu se fera. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Moi je crois que nous avons un Dieu qui veut bénir. Vous le croyez ? Nous avons un Dieu grand. Moi quand je lis ça, si le reste ne me réjouit pas, le verset 22, ben, 14, il me réjouit. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent et il les guérit tous. Alléluia. On ferme les yeux quelques instants. Qui veut goûter à la bonté du Seigneur ? Qui dit, mais c'est pour moi, c'était pour moi. J'ai écouté la voix de Satan. Soyez honnête. Parce que vous savez, avec Dieu, il faut être honnête. Et je m'adresse à ceux qui ont préféré la parole de Satan à la parole de Dieu. C'est vrai que c'est fort. Dans bien des endroits, ça ne serait pas accepté. Mais quand même, il faut être sérieux. Qui ce soir dit à Jésus, guéris-moi Seigneur. Je suis un boiteux, je prie une fois tous les trois jours. C'est ça boiter, on prie quand on a envie. Je suis un aveugle, je ne prie même pas pour mon pasteur qui m'apporte la nourriture dont j'ai besoin. Je ne prie même pas pour Monsieur Gau. Mais quelle honte. Oui, eh bien c'est bien. Vous êtes un aveugle. Ce soir, laissez Dieu vous guérir. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir ? Mais est-ce que vraiment vous croyez que Jésus, il a le pouvoir de vous guérir et de dire, ah, ils se sont trompés, mais ils reviennent à moi de tout leur cœur, dans cette humilité. Oui, ils acceptent cette prédication, ils reconnaissent ma sévérité, ils sont d'accord avec cette sévérité. Dieu va vous guérir. À votre place, fermez vos yeux. À votre place, dites Seigneur, pardonne-moi Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai travaillé à ce que l'œuvre de Dieu ne se fasse pas, moi qui dis oui, il faudrait ci, il faudrait là, peut-être que vous jugez, que vous critiquez, mais Dieu vous dit ce soir, tu as contribué à ce que je m'éloigne du sanctuaire, tu as contribué par tes critiques, par ta non-prière, à ce que des âmes ne soient pas sauvées, à ce que l'apostasie s'installe. Voilà, si vous n'avez pas prié, ce à quoi vous avez contribué. Mais comme vous le connaissez, notre Dieu est grand, il est bon, il pardonne, et il ne se lasse pas de pardonner. Alors ce soir, saisissez la victoire, saisissez la guérison, saisissez le pardon, saisissez cette vie nouvelle, et dites, je vais intercéder le mardi soir, oui, notre place, le soir avec ma femme, ou le matin, ou le samedi quand on a un quart d'heure de libre, eh bien on va prier pour nos enfants, on veut que tous nos enfants soient sauvés. Mes frères et sœurs, Dieu est capable de nous étonner. Dieu est capable de nous étonner jeudi matin, jeudi après-midi, jeudi soir, samedi à la jeunesse, dimanche matin au culte. Est-ce que Dieu est capable de nous étonner ? Est-ce que Dieu est capable de nous montrer ce qu'il fait lorsqu'on n'empêche pas sa présence d'agir ? Alors, à votre place, dites-lui pardon. On ne demande pas aux gens de se lever, mais à votre place, mes frères et sœurs, à votre place, dites Seigneur Jésus, je te demande pardon, guéris-moi. Touche mes yeux, touche mes jambes, que j'arrête de boiter. Touche-moi, Seigneur. On va chanter ce chœur quand tu pries. Au nom de Jésus, Dieu te voit et il t'entend. Voilà, quand tu pries, Dieu te voit. Et il ne fait pas que te voir, il t'entend. Mes frères et sœurs, je vous le dis de la part de Dieu. Vous savez, je suis votre pasteur, ça va faire 15 ans que je suis votre pasteur. Mais moi, je vous le dis de la part de Dieu. Il faut que l'Église soit une maison de prière. C'est pas moi qui le dis. Moi, je n'ai rien à vous dire de spécial, sinon ce que Dieu dit. Un pasteur, c'est un porte-parole. Il faut prier et ne pas se relâcher. Parce que si on se relâche, rien, on ne verra rien. On peut moderniser tant qu'on voudra. On peut mettre de la technologie tant qu'on voudra. Je ne suis pas contre, mais on a besoin de la présence de Dieu. Restons recueillis, chantons ce cœur. Chantons ce cœur quand tu pries. Au nom de Jésus, Dieu te voit et il t'entend. Voilà, restez recueillis. Peut-être quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un dit, oh, j'aimerais qu'on m'impose les mains, j'en ai honte. Voilà, vous êtes malheureux. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, peut-être avancez-vous, Dieu priera pour vous. Si vous êtes plusieurs, les anciens viendront. Mais ne laissez pas, ne partez pas sans avoir la victoire. Ne partez pas sans avoir la guérison. On n'est pas là pour faire des sermons accusateurs. On est là pour s'approcher de Jésus. Le ménage que Jésus a fait dans le temple, ça n'a pas éloigné tout le monde. Si ça vous éloigne, c'est que vous ne le connaissez pas. Ils s'approchèrent de Jésus. Et il les a guéris. Prions. Et si quelqu'un a besoin, prions parce que avec ce chant. Si quelqu'un veut s'avancer, avancez-vous. Vous pouvez à votre place prendre la décision. Mais peut-être quelqu'un a éprouvé le besoin, compris pour lui, avec lui.